Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Corner tiré par Lionel Messi. Et le but de Cristiano Romero, la reprise de la tête sur le corner parfaitement tiré de Lionel Messi. Et l'Argentine qui repasse devant face au Cap-Vert.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
17h58 RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Rotten sans flamme. On est là, on est bien, on est reparti pour une magnifique journée, magnifique émission en mode live Argentine-Égypte, Messi contre Salah. On va se régaler. Dans 10 minutes, on va avoir les hymnes. Et surtout, comme tous les jours dans Rotten sans flamme, il y aura un petit peu de thèmes sur l'équipe de France, des infos, de l'actu. Et puis surtout, les grandes analyses. Vous allez voir le plateau, comme tous les jours. C'est magnifique. On est avec notre Marocain presque préféré. Ça sera un ennemi jeudi soir. C'est Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ah Benoît.
Bah ça va, je suis porteur de l'équipe de France quand même.
Écoute, moi. Ah ouais, ah, je croyais que t'étais converti, que t'avais pas le choix.
Il y a un peu de tension à la maison en ce moment, je
crois. Ouais, je trouve, je passe tous les jours à Porte-Saint-Cloud, ça tremble un petit peu.
Ça tremble un peu. Ouais. Vivement que ce match arrive.
Ah, il y en a un qui tremble pas, il tremble jamais, c'est Manu Petit. Salut Manu.
Salut Manu.
Bonjour messieurs, bonjour tout le monde.
Ça va Manu.
Ouais, ça va, ça ne dit pas justement pour qui tu seras en fait.
Ah, pour la France.
Ah, pour la France, t'es sûr de ça?
Ah, sûr, oui, pourquoi? Non, je sais pas. Et pourquoi vous en doutez?
Ici, il peut le dire, chez lui, il le dit pas.
Ah non, mais le sait.
Parce que je te trouve ambigu.
Ah ouais.
À mon avis, il va être viré de chez lui, je dis.
Ils auront deux contre un. Il y aura ma fille et ma femme contre moi, mais bon, c'est comme ça.
Mais arrête, ta fille n'est pas là. Ta fille est pas là.
Oui, mais bon, dans son cœur, elle est pour le Maroc.
Ah bon?
Ah oui, elle est.
Comment? Mais non. Bon, écoute, de toute façon, c'est elle qui choisit. Hein. Voilà. Elle a le choix du roi.
Tout à fait.
Écoute, en tout cas, Benoît, on va passer une magnifique émission. Pourquoi? Parce que c'est argentiné.
Eh oui, c'est un grand Rotten sans flamme, la suite des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Le tenant du titre, l'Argentine, qui affronte l'Égypte.
Argentina.
Qui se déroule à Atlanta, sous les yeux d'Edgar Grollo, qui est avec nous. Salut Edgar.
Salut tout le monde, bienvenue
salut
à Atlanta.
Edgar. Salut Edgar.
Edgar, on a hâte d'assister à cette rencontre donc entre deux légendes du foot.
Ah oui.
Évidemment le GOAT, Messi, avec Mohamed Salah en face de lui. Ça promet du grand spectacle ce soir sous tes yeux.
Oui, ça promet, alors que les joueurs sont justement en train de sortir sur la pelouse. Alors c'est assez particulier ici, vous savez, c'est à l'américaine, c'est-à-dire que tu peux payer un peu plus cher, avoir des places VIP, où t'es dans le couloir avec les joueurs. Et donc là, ils passent devant une horde de supporters avant d'entrer sur la pelouse. C'est assez particulier. Lionel Messi, évidemment, qui fait des petits clins d'œil, qui tape dans des mains. C'est un sacré duel, Jérôme, Manu, entre Lionel Messi et Mohamed Salah. C'est voilà leur dernière danse, ou en tout cas, on a toujours tendance à dire qu'ils peuvent continuer, surtout Lionel Messi. Mais là, on se dit que c'est peut-être l'une des dernières fois qu'on va voir ces deux monstres sur un terrain ensemble.
Jérôme.
Ouais, bah écoute.
Est-ce que vous pensez que le piège est possible pour l'Argentine qui a été secouée par le Cap-Vert lors du tour précédent?
Tous les matchs, on le voit avec Manu cette année. Tous les matchs, il peut y avoir une différence de niveau à la base au départ, et ce qui est normal quand tu regardes l'équipe d'Argentine, championne du monde en titre. Les derniers résultats de l'Argentine, l'Égypte qui a gagné seulement son premier match dans une phase finale de Coupe du Monde il y a quelques semaines. Donc difficile de voir l'Égypte éliminer l'Argentine, mais il peut tout se passer. Regarde le Cap-Vert. Personne n'aurait imaginé
la ils étaient pas loin
du Cap-Vert. Ah bah oui, hein Manu.
Oui, bien sûr, il y a toujours la surprise qui peut arriver, mais concrètement, c'est quand même les champions du monde en titre. Il y a une équipe qui est bien rodée depuis pas mal d'années. C'est des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs. Alors Mo Salah, il joue également. Il a été un joueur fantastique et il l'est toujours. J'espère qu'il arrivera à briller aujourd'hui. Mais bon, sincèrement, on ne va pas se mentir. Je ne vais pas faire l'hypocrite. Moi, je vois l'Argentine gagner.
Et on a hâte d'assister à cette rencontre. Les hymnes qui vont retentir d'ici quelques secondes à Atlanta. On vous le rappelle sur RMC, l'événement Rotten sans flamme en direct de la brasserie Flora. Autour de ce huitième de finale de Coupe du Monde entre l'Argentine et l'Égypte, Edgar Grollo.
Et tous les joueurs sont sur la pelouse, comme depuis le début de cette compétition, évidemment. Les titulaires et les remplaçants. Et on va commencer par l'hymne argentin, tous les joueurs qui se prennent dans les bras et qui vont chanter cet hymne devant un stade acquis à leur cause ici à Atlanta.
Ah,
argentin repris par le stade d'Atlanta. Évidemment, 99% des sièges sont remplis par des spectateurs avec le maillot argentin. C'est parti, on va écouter maintenant l'hymne égyptien.
Qui retentit à Atlanta, l'événement ce soir sur RMC dans Rotten sans flamme, ce huitième de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 entre l'Égypte et l'Argentine, tenante du titre, Léo Messi bien évidemment titulaire dans cette équipe argentine. On fera le point sur les compos d'équipe dans un instant avec Edgar Grolot qui est en direct d'Atlanta. On est avec Manu Petit, avec Jérôme Rotten en direct de la brasserie Flora dans le 9e arrondissement de Paris. Petit détour tout de même par Wimbledon, c'est l'autre événement sportif avec le Tour de France en ce moment à vivre sur RMC. Eric Salio est sur Zone pour ce huitième de finale entre Sacha Zverev et Lechka. Salut Eric.
Salut à vous deux, salut à tous. Effectivement, c'est un match qui n'a pas pu se terminer hier parce qu'il y a la règle du couvre-feu ici à Wimbledon. On arrête à 23h. Et sachez que Lechka est reparti à fond les manettes cet après-midi puisqu'il a pris 3e set à Zverev. Et on est donc dans le money time du 4e. Il y a 6-5 Zverev et 30 as sur la mise en jeu du Tchèque. Donc Zverev est à 2 points de décrocher sa qualif pour les quarts de finale. Et puis sur le coup numéro 1, il y a un match, une affiche fantastique dans le tableau féminin entre Naomi Osaka et Karolina Muchová. Il y a 6-5 pour la Tchèque, c'est Osaka qui est au service.
Merci Eric. On fait une bise à Steve Savidan qui nous écoute en direct de la Martinique. Voilà, on salue Steve qui était avec nous la semaine dernière. Et on retourne tout de suite.
Mais il faut faire attention.
À Atlanta, ouais, attention, Steve, beaucoup de soleil.
Le petit ponche.
Aussi.
Ouais. Mais les bouées. Hein.
Atlanta pour ce Argentine-Égypte. Rappel des compos avec toi, Edgar Grolot.
Alors que Lionel Messi et Mohamed Salah vont se serrer la main, vont faire le toss devant François Le Texier. Et oui, il y a quand même un Français dans cette histoire,
oui,
François Le Texier qui va arbitrer ce match. Ça fait peur à quelques supporters avant. Ça leur fait un petit peu peur. François Le Texier qui fait le toss. On va rappeler les compos, tu l'as dit. Emiliano Martinez dans les cages côté argentin. La défense de la gauche vers la droite. Tagliafico, Martinez, Romero, Molina. 4 milieux de terrain, c'est-à-dire un de plus que face au Cap-Vert où Lionel Scaloni trouvait que son équipe n'avait pas assez le contrôle du match et du tempo. McAllister, Enzo Fernandez, Leandro Paredes, l'ancien parisien, et Rodrigo De Paul. Et puis devant, Lionel Messi évidemment, et Julian Alvarez, préféré à Lautaro Martinez.
Ouais, et Manu posait la question, mais pas de Donald Trump dans le VAR Center hein, pour le moment. A priori, non, c'est pas prévu, Edgar.
A priori, non. Pas pour l'instant.
Manu, il arbitre pas tous les matchs. Il choisit ses combats.
Il a bien raison.
Bah c'est Jérôme Brizard. C'est peut-être mieux, quand même.
Ok, bah oui, en tout cas, il y a plus de compétences.
Il pourrait se présenter à la FIFA aux prochaines élections au mois de mars, l'année prochaine.
Trump. Ouais, bah oui.
Je pensais que tu parlais de Jérôme Brizard. Je me suis dit, il part de loin. Hein.
Non, Jérôme Brizard, il faut pas qu'il nous quitte. Excellent arbitre.
Exactement. La compo égyptienne, Edgar.
Ouais, la compo égyptienne avec Choubir dans les cages. La défense de la gauche vers la droite. Hafez, Yasser, Rabia, Annie. Au milieu de terrain, la Chine, Atia, à chaud. On verra comment ça s'organise. Est-ce qu'on aura Zico un petit peu plus bas ou Hassan un petit peu plus bas? Donc ces deux-là seront aux côtés de Mohamed Salah. Mais encore une fois, à voir comment ça s'organise. Hassan, c'est un attaquant du côté d'Oviedo en Espagne. Là, il va se positionner sur le côté droit de l'attaque sur ses premiers instants du match. On va voir comment ça s'organisera petit à petit. En tout cas, Lionel Scaloni s'attendait à voir une Égypte qui pourrait changer un petit peu sa façon de jouer pour s'adapter à eux. Et donc, pourquoi pas venir défendre un petit peu plus. Pour l'instant, on a Salah dans l'axe, Zico sur le côté gauche et Hassan sur le côté droit. Donc ce serait plutôt un 4-3-3 côté égyptien, mais on verra comment ça évolue évidemment dans les prochaines minutes.
Sacré parcours, hein. Issam Hassan, pur produit du Paris FC, né à Bagnolet, international égyptien, 24 ans, joueur d'Oviedo, qu'on va surveiller dans ce match.
Argentine-Égypte.
Formé à Châteauroux. Le coup d'envoi donné d'ici quelques secondes. Vas-y Edgar.
Oui, le coup d'envoi qui va être donné par Lionel Messi. C'est parti. L'Argentine dans ses couleurs traditionnelles de bleu clair et de blanc, et les Égyptiens en rouge et en noir. C'est parti pour un huitième de finale historique, on peut le dire, entre Lionel Messi et Mohamed Salah, deux grands de notre époque. Les Argentins qui ont le ballon, qui vont ressortir de derrière. Est-ce qu'ils auront plus de rythme dans leur passe, dans leur mouvement que face au Cap-Vert? Manu, c'est ce qui leur avait manqué. Et tout de suite déjà la récupération de balle des Argentins, mais Julian Alvarez qui se bat, qui peut gratter ce ballon, le chipper dans les pieds de Mohamed Hani. McAllister qui revient derrière avec Paredes. Ça c'est un choix fort, Manu, de la part de Lionel Scaloni, mettre un milieu de terrain en plus avec Paredes pour essayer de mieux contrôler le tempo du match.
Oui, exactement. Le milieu gère souvent le tempo du match, donc ils avaient un prix d'essoufflante aussi contre le Cap-Vert, donc je pense qu'il a tiré des conclusions de ce match-là.
Jérôme, tu t'attends à une Argentine dominatrice qui va avoir la possession du ballon et qui va pousser l'Égypte à défendre, ou est-ce que tu penses que ce sera un match équilibré?
Écoute, c'est pas forcément la grande force de l'Argentine d'avoir la possession de la balle, du moins eux c'est pas ce qu'ils recherchent. Alors ça peut arriver par rapport à l'adversaire, ce qu'ils te proposent. Bien sûr que on imagine que les milieux de terrain, même si là c'est les Égyptiens qui ont mis le premier coup, mais les Argentins vont venir agresser un peu cette équipe d'Égypte quand ils vont avoir le ballon. Et puis c'est très vertical, hein, le jeu argentin où Messi rayonne. Donc non, moi je les vois aller assez vite vers l'avant pour essayer de.
Oh attention, la perte de balle très dangereuse de Yasser, c'est récupéré par Julian Alvarez, un mètre de la surface de réparation, McAllister dans la surface. Oh la superbe intervention. Le très bon retour de Mohamed Hani, le tacle de la surface face à Alexis McAllister, parce que là, il s'était complètement raté initialement. Yasser sur cette tête là, énorme situation pour les Argentins dont n'a pas réussi à profiter McAllister. Ils ont récupéré ce ballon, mais là c'est typiquement le genre d'erreur qu'il va falloir éviter face à l'un des favoris de la Coupe du Monde.
Bien sûr. Non mais là, Manu, c'est terrible de se faire prendre sur un ballon, une relance du gardien de 80 mètres.
Ouais, en même temps, tu vois un bloc relativement haut également des Égyptiens au début de match. Donc là, ils n'essayent pas justement de trouver des milieux avec le ballon au sol. Ils essayent tout de suite de trouver la verticalité en profondeur. Donc attention à surveiller, hein, parce que les 1 contre 1 peuvent être dangereux à gérer.
2 minutes de jeu, Atlanta 0-0 entre l'Argentine et l'Égypte. Edgar, tu nous interromps dès qu'il se passe quelque chose, mais première opportunité.
J'allais vous dire que Messi a quand même pas la même patte gauche que Jérôme, hein, parce que là, premier ballon et il l'envoie en 6 mètres. Voilà.
Je crois que j'ai jamais fait ça. Moi, j'ai jamais fait ça. Mais bon, après, ça peut arriver. Il s'est trompé.
Disons qu'ils avaient des qualités différentes.
Léo est très mal rentré dans son match.
Ouais.
Voilà. Mais.
Bon, méfiez-vous.
Mais bon, envoie-lui un texto pour la mi-temps. Qui à sa femme.
Un tuto.
Bah oui, sa femme, elle est sur place.
Bah, tu lui envoies un tuto. Comme ça, comment mettre un ballon en profondeur.
Voilà.
0-0, en tout cas, entre l'Argentine et l'Égypte. Retrouvons Jean-Louis Tour, qui est en direct de Boston, au plus près des Bleus. Salut Jean-Louis.
Salut Benoît, Jérôme, Manu. Salut Jean-Louis.
Salut Jean-Louis, ravi de te retrouver. On est à 2 jours de ce quart de finale tant attendu entre la France et le Maroc. Déjà, est-ce que tu as des nouvelles du groupe? Comment va en particulier Aurélien Tchouaméni déjà?
Bah, c'est ce qu'on surveille, parce évidemment, qu'on l'état de santé de Tchouaméni qui ne s'est pas entraîné hier. De nouveau, il y a une séance tout à l'heure à 22h pour vous, heure française. A priori, Guy Stéphane a parlé hier d'un programme individualisé. Donc, à mon avis, on ne doit pas l'exclure, mais selon moi, il ne sera pas titulaire contre le Maroc. S'il n'a qu'un seul entraînement collectif dans les jambes, ça me paraît difficile à imaginer. D'autant que Manu Koné a plutôt donné satisfaction à sa place. Donc, à mon avis, on prendra pas de risque avec Tchouaméni.
Ouais, on parlera tout à l'heure d'ailleurs de l'autre interrogation. Est-ce que Doué remplacera Barcola dans le 11 de départ face au Maroc? Ce sera le sujet qu'on abordera tout à l'heure.
Je ne pense pas qu'on aura la même physionomie du match contre le Maroc. À mon avis, on ne va pas rester derrière à attendre. D'accord. Je connais trop les Marocains pour essayer d'imposer leur jeu également. Donc, à mon avis, il y aura plus d'espace que contre le Paraguay.
Et Jean-Louis, on voulait te parler de l'autre actualité qui concerne l'équipe de France. C'est ce soutien apporté à Kylian Mbappé qui a été victime d'injures racistes de la part d'une députée paraguayenne. C'est monté assez haut.
C'est permis de répondre aujourd'hui en plus.
Elle a répondu, évidemment.
En accusatrice, maintenant, ouais, se transforme en victime.
Ouais. Mbappé, maintenant, c'est une victime.
Elle est extraordinaire, cette
dame. Elle réclame des excuses.
Sinon, elle en restera pas là.
Ouais, exactement. Ah. Il a même reçu le soutien de l'ONU, Kylian Mbappé, Jean-Louis.
Bah, heureusement.
Oui. Oui, exactement. Il a reçu le soutien de l'ONU, donc le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, qui a apporté le soutien à Mbappé en parlant de propos racistes et ignobles. Il y a par ailleurs le parquet de Paris qui a ouvert une enquête après avoir reçu une plainte de la Fédé pour dénoncer les propos racistes. Donc ce genre de délit qui font encourir une peine d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Donc on va voir ce que l'enquête du parquet de Paris donne à la fin. Et bien sûr, ça vous avez suivi hier, toutes les marques de soutien, que ce soit d'Emmanuel Macron, que ce soit de la présidence paraguayenne également, et bien sûr en interne de tous les joueurs, du staff, Guy Stéphane qui a parlé hier de propos indignes, abjects et scandaleux, donc autour de Kylian Mbappé.
Et juste Jean-Louis, dernier mot sur les conditions climatiques, est-ce que ça se rafraîchit un peu à Boston, parce que les Bleus joueront à Boston jeudi, ou est-ce qu'il fait toujours aussi chaud dans le nord?
Ça se rafraîchit clairement. Non mais il fait que pleuvoir, il fait que pleuvoir là. Donc non, ça a changé. Ouais. Il fait 20 degrés, il fait que pleuvoir toute la journée, il pleut.
Excellent.
Ça va être a priori
d'aller courir,
la même chose.
Que ça va s'arrêter.
Bah non, c'est mieux pour courir.
Là, je suis allé courir en chantant. C'est peut-être ça l'histoire.
Ah oui, c'est peut-être pour ça. Ouais.
Mais a priori, au moment du match, il pleuvra pas. Ça va se réchauffer un peu, mais c'est quand même beaucoup plus supportable que ce qu'on a connu.
Merci Jean-Louis d'être venu. Merci. Dans Rotem sans flamme.
Continue avec plaisir.
Au plus près des Bleus. Allez. On trouvera Florent Germain un peu plus tard dans Rotem sans flamme. On est là jusqu'à la fin de cette Argentine-Égypte. 6 minutes de jeu. Toujours pas de but pour l'instant, Edgar Grollo à Atlanta.
Non, mais les Égyptiens sont très bien. Les Égyptiens sont très bien, très haut sur le terrain. On a même Achour qui vient se positionner presque en quatrième attaquant. On n'a pas eu le temps de le mentionner encore, hein, mais Marmouche est sur le banc. C'est peut-être l'autre star de cette équipe égyptienne. Et pourtant, il n'est pas titulaire aujourd'hui face à l'Argentine. Alors que Aisho Speed, le fameux streamer, est en train d'être sifflé par le public d'Atlanta. Visiblement, les
Argentins. Oui, en même temps, il est fan de Ronaldo.
Donc, pas, oui, c'est pour ça. Il est fan de Cristiano Ronaldo.
Tagliafico, il prend pas de jaune là sur ce qui.
Non, il y a même pas.
Donc je comprends pas. En fait, on laisse jouer.
Le centre d'attaque au deuxième poteau. Attention, la bonne intervention derrière parce que il y avait Ibrahim Yesser qui traînait au deuxième poteau. Qu'est-ce qu'ils sont bien, messieurs, les Argentins depuis le début de ce match.
Non, les Égyptiens.
Bien sûr.
Les Égyptiens.
Très bon début de match de l'Égypte. T'as raison. Et Manu, on s'adapte à l'arbitrage de France Paraguay. On va pas commencer à siffler chaque obstruction et à mettre des cartons.
Franchement, je comprends plus grand chose.
C'est fou là, Jérôme, dans cette faute.
Non, mais déjà c'est fou. Et là où je rejoins Manu, c'est que les Argentins, c'est pas la première fois.
Les blocs comme ça.
Ouais.
On a tout le temps.
Mais
ils sont jamais sanctionnés d'un carton.
En plus, jamais. Et puis on se souvient du premier match Argentine. Algérie avec le carton rouge pas donné à Léo Messi.
Bien sûr.
On a compris en gros que les arbitres ils peuvent avoir quelques consignes, tu vois. Donc écoute,
c'est l'arbitre français, donc on va pas
Il y a une volonté de la FIFA sur cette Coupe du Monde de manière générale à laisser davantage jouer aussi.
Alors ça, tu vois, ce genre de propos là, je peux plus l'entendre, je suis désolé.
Non, mais c'était pas le cas par rapport au Paraguay, par exemple, on est tous d'accord.
Je suis d'accord, mais il y a une différence entre laisser jouer et laisser l'avantage.
Exactement.
et revenir sur une faute qui est flagrante, délibérée d'anti-jeu.
Ouais, ouais, voilà.
Donc vous bien mélangez sûr tout en permanence et vous me sortez cette phrase.
Non, mais surtout sanctionner pour choses arrêter justement l'hémorragie, bien sûr.
Mais moi, chaque match, je vois des fautes sanctionnables d'un carton jaune et tout le monde dit ben non, ils ont reçu des consignes qu'il faut laisser jouer.
C'est décroché. Le ballon d'Enzo Fernandez au-dessus vers Lionel Messi, le contrôle dans la surface de réparation. Et la très, très, très bonne intervention de Rami Rabiot là, qui est venu tout de suite coller Lionel Messi pour l'empêcher de faire exactement ce qu'il avait fait face au Cap-Vert, c'est-à-dire contrôler puis frapper en mouvement. Le ballon au-dessus était bon, Lionel Messi qui retouche cette balle pour la donner à Romero derrière, mais là il y avait un petit espace. McAllister qui peut trouver De Paul dans la surface de réparation. De Paul au centre, en retrait. Oh, quel raté d'Enzo Fernandez. Qu'est-ce qu'il vient de mettre à côté? Il est à 1 mètre du but. De toute façon, il y avait une position de hors-jeu de Paul. L'arbitre qui avait levé son drapeau a posteriori. Mais alors là, ce qu'il rate. Ce qu'il rate Enzo Fernandez sur l'action. Incroyable.
Incroyable. Ouais,
heureusement qu'il y a hors-jeu, hein, parce qu'il aurait pu s'en vouloir. Ah, oui.
Et il y a hors-jeu. Il y a
un hors-jeu de 2 mètres. Non, mais même là, comment il ne lève pas tout de suite? Comment mais... Parce que ça aussi, c'est les consignes, en fait. Et le rangé,
Manu, j'entends ta réflexion, mais pour aller dans le sens d'Edgar, même en termes statistiques, ça se voit, il y a beaucoup moins de cartons jaunes donnés. Donc c'est peut-être qu'effectivement, il y a des consignes de l'IFAB pour les arbitres, en disant...
Et tu trouves que c'est bien, toi?
Ah, pas du tout. C'est pas ce que je t'ai dit.
Parce qu'il y a des joueurs qui restent sur le terrain jusqu'à la fin, alors qu'ils mériteraient des
sanctions. Comment t'expliques que le Paraguay n'ait pas pris un carton en temps réglementaire?
C'est un scandale.
C'est encore autre chose. Ça, c'est un problème d'arbitrage. On peut constater que les arbitres laissent davantage jouer, que parfois c'est positif, parfois c'est trop, et dire aussi qu'il y a aussi eu sur certains matchs peut-être un laisser-aller des arbitres et un laxisme, comme par exemple l'arbitre de France-Paraguay.
De toute façon, les arbitres n'arbitrent plus aujourd'hui.
Ben non, mais
Manu,
d'autant plus sur cette compète, ça je suis d'accord avec toi. Parce que le fait de laisser jouer, ok, il y a eu certains matchs, Edgar, t'as raison, qui se sont bien déroulés, où il y a du rythme et tout, et c'est plaisant. Et heureusement qu'il y a du rythme, parce qu'avec ces pauses là, toutes les 20 minutes, bah ça casse un peu le spectacle.
C'est pas que ça casse un peu, non, ça casse le rythme,
ça casse un peu beaucoup.
Ça change tout.
Que ça soit pour les joueurs ou pour nous les téléspectateurs ou les spectateurs, ça. Et puis après il y a en effet les fautes flagrantes qui sont pas sifflées par les arbitres, parce que, alors je sais pas, je pense que c'est pas des consignes. Quand par exemple, je donne l'exemple. Alors on en revient toujours à France-Paraguay. Mais France-Paraguay, quand t'as l'arbitre qui est à 5 mètres de l'action, qui voit que Doué, il se fait fracasser dans la surface.
Ou Mbappé, ou Olivier qui prend un coup de poing dans le visage.
Ouais, mais il attend quoi en fait? Il faut laisser jouer pour
ça. C'est vrai. Non, mais ça, c'est vrai.
Après, ils attendent ça, c'est la fracture. Ils attendent peut-être un joueur qui sorte sur civière.
Ah non.
Non, mais sur les pénalties, ça, on le voit toute la saison, malheureusement. Les arbitres aujourd'hui qui se reposent sur le fait qu'il y a la vidéo. Et donc, ils attendent, ils préfèrent ne pas s'y aller.
Ils ne servent plus à rien.
Ils ne servent plus à rien. Retour au jeu, Edgar. 0-0 à Atlanta.
Entre l'Argentine. Retour au jeu, 12e minute. Entre l'Argentine et l'Egypte, 0-0, tu l'as dit, pas encore d'occasion majeure, mais en tout cas les Égyptiens qui sont bien entrés dans leur match et les Argentins qui essayent, pourquoi pas, de se procurer une occasion. Alors on dit pas d'occasion parce que celle d'Enzo Fernandez était hors jeu, de Paul était hors jeu au départ de l'action. Les Argentins qui sont au niveau de la ligne médiane avec Leandro Paredes qui peut trouver De Paul.
C'est marrant parce qu'ils balancent quand même souvent des ballons, les Argentins.
Mais c'est fou, collectivement.
Ils n'essayent pas de construire de derrière, d'essayer de trouver des schémas, des relais.
C'est long ballon, ils jouent les deuxièmes ballons parce qu'en effet, là, ils ont des chiens au milieu qui aiment bien être au deuxième
gagner
ballon.
Gagner les deuxièmes ballons pour faire monter le bloc.
Et puis après, ils se retrouvent dans les 30 mètres adverses et là, il faut attendre le coup de génie de Léo Messi.
C'est vrai, hein, Edgar, on est en difficulté dans le jeu collectif.
Oui, et c'est exactement comme face au Cap-Vert. Bon, après, on parle après 12 minutes, hein, mais si on prend l'exemple du match face au Cap-Vert, c'était une équipe qui, de temps en temps, avait un petit coup de génie où ils arrivaient à casser une ligne avec une passe pour trouver quelqu'un en profondeur au-dessus de la défense ou quelque chose comme ça. Mais quand c'est de la construction où ils essayent vraiment de faire la différence par le mouvement, etc., c'est beaucoup trop statique et ils n'arrivent pas à trouver justement ces décalages-là parce qu'il n'y a pas assez d'appel, il n'y a pas assez de profondeur, il n'y a pas assez de mouvement. Et donc, à part une inspiration d'un joueur, c'est très compliqué dans le développement du jeu au niveau de l'Argentine. Et là, ils font faute sur Emma Machour au milieu de terrain. Ouais. Et ça va donner un coup franc très lointain pour les Égyptiens qui récupèrent donc la possession.
Voilà, ils sont énervés contre la décision de François Le Texier, mais il y aura bien coup franc pour l'Égypte aux abords du rond central. 12 minutes 0-0, nouveau détour par Wimbledon, c'est terminé. Sacha Zverev qualifié pour les quarts de finale, Eric Salio.
Oui, et ce sera son premier quart de finale à Wimbledon, hein. Ça peut paraître étonnant, mais c'est la stricte réalité des chiffres. Zverev qui s'est imposé donc en 4-7, 6-4, 7-6, 3-6, 7-6. C'était vilain. La fin de match, c'était vilain. Zverev a eu balle de match. Il a commis une énorme
pique de faute. C'était pire que la finale de Roland, la fin de match.
Et Lechka derrière, lui aussi, qui est pas un mot sur le plan mental, a fait un horrible revers dans le filet. Donc Zverev qualifié, rejouera dès demain sur le court numéro 1 contre Taylor Fritz, l'américain. Mettez vos sous sur l'américain, je vous le dis tout bas. Hein.
Ah, merci. Allez. Eric pour le conseil. Ah,
merci Eric.
Magnifique.
C'est leur Swift, il a dit.
C'est leur Swift.
Ah, pardon.
Ouais, c'est quasiment un homonyme. Ouais. Merci Eric, à tout
merci
à l'heure.
Eric. Et donc Djokovic, OG à la cible dans un gros quart d'heure. Quoi.
Ouais, bah, tu seras avec nous.
Pas de problème. Ah, l'ouverture du score de l'Égypte. Ibrahim Yasser de la tête. Le centre, il est parfait de la part d'Atia. Et Yasser qui vient célébrer avec le banc. Incroyable et presque mérité pour les Égyptiens après un quart d'heure de jeu.
Magnifique l'ouverture du score de l'Égypte et ce début de match totalement réussi de la part des Pharaons. Ce centre venu de la droite, Jérôme, cette tête au deuxième poteau. Martinez cloué sur ses appuis. 1-0 pour l'Égypte, c'est incroyable.
Ouais, c'est incroyable, mais c'est pas immérité. Hein. C'est ce qu'on disait. Ils ont le ballon, ils tentent des choses. Alors pour l'instant, ça s'était pas encore confirmé sur les occasions, mais là le centre il est parfait. Le gardien argentin il peut pas sortir. Et
tu penses qu'il peut pas sortir, Martinez?
Je pense qu'elle arrive vite.
Je trouve qu'il est bloqué sur sa ligne.
Il
n'y
a pas d'enjeu.
Elle est quand même relativement dans les airs, la balle. Elle est facilement. Je sais pas. L'interprétation que tu en fais de la trajectoire, tu peux facilement sortir. Regarde bien. Hein. Elle est à ses 6 mètres, la balle. Hein.
Et il est quand même sorti.
Je te trouve un peu dur.
Non, franchement, bah c'est Sandro Martinez, 1m75, il s'est fait bouffer.
La balle, elle est aux 6 mètres. Il est déjà sorti à quasiment de 2 mètres de sa ligne. Et au moment où il y a le centre, il recule sur sa ligne. Alors qu'il doit aller au contact.
Manu, le centre, c'est pas un ballon en cloche.
Il est bon.
Mais tendu.
Bien sûr qu'il est pas au point de pénalty. Il est aux 6 mètres. Il est à 2 mètres de lui, sauf qu'il recule au lieu d'aller attaquer la balle.
Je pense que tu as raison sur le fait que. Il peut anticiper, il peut lire un petit peu mieux l'action de l'Égypte. Après, je trouve que le centre, il est magnifique.
Et les Égyptiens qui sont de retour dans la surface de réparation. Ils cherchaient Mohamed Salah, le ballon dégagé en catastrophe par Lisandro Martinez. Il n'a même pas réfléchi. L'Argentine menait 1-0 après un quart d'heure de jeu et déjà des défenseurs centraux qui balancent en touche comme ça.
Lisandro Martinez, déjà.
On le disait, ces Argentins, ça combine extrêmement bien.
C'est l'événement, juste Jérôme, c'est l'événement. L'Argentine tenante du titre, championne du monde en titre, qui est pour l'instant menée par l'Égypte après 15 minutes de jeu à Atlanta en 8e de finale. À mon avis, ça annonce un match passionnant, mais ça confirme aussi ce qu'on voit du début de match avec cette équipe argentine qui a une vraie difficulté dans le jeu, Jérôme.
Oui, et puis il fait, encore, moi je reviens sur le but, mais.
Le ballon qui récupère très haut. Mohamed Salah, le petit dribble. Oh, il est poussé dans le dos, je pense. François Le Texier qui ne bronche pas et qui va laisser ce ballon filer en touche. Mais la récupération très très haute, le pressing tout de suite. Les Égyptiens, ils viennent de marquer et ils continuent le pressing. Ils essayent d'en mettre un deuxième. Ils sont venus vraiment le couteau entre les dents et ils ont envie d'aller chercher, d'aller déranger cette équipe argentine. La mentalité, l'attitude de l'équipe d'Ossam Hassan, elle est exemplaire depuis le coup d'envoi de ce match.
Ils font un début de match parfait, les Égyptiens.
Ah ouais.
Après, il faut que ça soit sur la durée, parce que tu sais que le temps faible des Égyptiens, il peut être fatal face à cette équipe d'Argentine qui est toujours bonifié par le meilleur joueur de la planète foot, par Léo Messi, et forcément quand ils vont faire retomber le rythme, au d'un moment tu peux pas garder ce rythme là pendant 90 minutes. Ce qu'ils font pour l'instant, c'est fantastique. J'espère pour eux qu'ils vont continuer sur ce rythme jusqu'à la pause fraîcheur. Et puis après, c'est un petit peu au courage, mais bon, pour l'instant c'est quand même surprenant. Mais surprenant l'Égypte, ok, mais surtout la fébrilité argentine.
Ben oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est un poste que vous connaissez par cœur tous les deux, mais ce quatuor au milieu, Paredes, McAllister, De Paul et Fernandez, c'est totalement inefficace.
Pour l'instant, il gagne aucun duel.
Ouais.
Et c'est là que l'Égypte est bon. Et pour l'instant, ils fuient ces duels-là, ils arrivent à se trouver, ils font des passes. Écoute,
Bon, si ça se confirme, ça sera la plus grosse sensation de la Coupe du Monde.
Des huitièmes de finale, en tout cas. Manu, c'est dingue. C'est quatre profils au milieu qui n'arrivent pas à s'entendre et à faire la loi alors qu'ils sont.
Tu rajoutes un milieu de terrain parce que tu as connu des difficultés contre Cap-Verdé. Puis si c'est pour balancer des ballons au-dessus de leur tête et sans jamais vouloir concrétiser au milieu, derrière, je les trouve très faibles, les Argentins. Même sur le plan dans l'implication, dans l'intensité. Je ne parle même pas sur le côté technique parce que. Pour moi, c'est vraiment un début de match totalement manqué des Argentins.
Le pénalty pour l'Argentine. Tagliafico lancé en profondeur parfaitement par Enzo Fernandez et derrière le contact dans la surface de réparation. Effectivement, sur les premières images, j'ai l'impression qu'il y a bien un contact entre lui et Issem Hassan qui était redescendu défendre. Il n'y a pas de position de hors-jeu, je pense, de la part de Tagliafico. Et la faute d'Hassan qui intervient et qui est en retard. Il est en retard et ce sera bien un pénalty pour l'Argentine.
Il est couvert par les centraux.
Il est couvert, mais ça se joue à pas grand chose.
Il est couvert, mais après, il ne va pas intervenir comme ça. En fait,
il ne le voit pas arriver.
Donc, il y va pour contrer le ballon. Tagliafico, il a bien senti le coup. Il touche juste un petit peu, il se fait percuter. Oui,
je pense que s'il avait fait un tacle glissé plus vers son but, il aurait eu le ballon.
Ou peut-être Manu, rester debout parce qu'il y a l'autre défenseur central qui vient pour le contrer.
Ouais. Et c'est vrai que Tagliafico joue très bien le jeu. Parce qu'il sent que le contact va arriver.
Exactement, il y va pour prendre le ballon en premier, mettre son pied en opposition.
Et qui va tirer, à votre avis?
On a un petit doute. Attention, le dernier, il l'a raté.
Allez, gars, Léo Messi face au gardien.
Il a raté deux de ses cinq derniers pénaltys avec l'Argentine et avec son club de l'Inter Miami.
Il a raté en ouvrant le pied, il a raté en croisant.
Panenka.
Écoute, ça serait.
Lionel Messi.
Non.
Déjà 20 buts en Coupe du Monde. Pour lui, Lionel Messi, c'est parti, qui s'élance, c'est arrêté par Choubir. Il a fermé son pied, Lionel Messi, et la parade exceptionnelle de Mostafa Choubir, le gardien d'Al Ahly. Incroyable scénario ici à Atlanta, l'Argentine menée par l'Égypte et l'Argentine, Lionel Messi qui rate son pénalty.
Mais c'est vraiment mal frappé, hein.
Ah, très très mal tiré.
À mi-hauteur, pas
assez de force. Ça me rappelle Guimarães avec le Brésil.
Bah, c'est à peu près ça, exactement.
Après tu peux pas lui reprocher sa course d'élan parce qu'il prend une course d'élan classique. Tu peux juste le reprocher en effet de pas avoir regardé le gardien, parce que le gardien, vous verrez sur le dernier pas d'élan, il est déjà parti sur sa gauche. Et donc s'il avait levé la tête, il y avait juste un plat du pied tranquille à mettre de l'autre côté. Mais même le plus grand joueur de l'histoire fait qu'il y a un doute qui s'est mis en place, parce que Il le rate en fermant le pied comme ça aussi. Ouais, c'était contre.
C'était lors du premier match.
Le premier match.
De l'Argentine.
Non, c'était pas l'Algérie. Ouais. C'était le match.
Ah non, c'est pas l'Algérie, c'est le deuxième match. Ouais, on avait commenté match, d'ailleurs.
Exactement.
Juste Edgar, parle-nous de l'attitude. On rappelle l'événement sur RMC, Rotten sans flamme, 8e de finale entre l'Argentine et l'Égypte. Les Égyptiens mènent 1-0, 21 minutes de jeu. L'échec à l'instant de Léo Messi sur pénalty. Parle-nous de l'attitude des Égyptiens parce qu'ils ont été sanctionnés d'un carton au niveau du staff. Qu'est-ce qui s'est passé là?
Oui, exactement. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais le staff qui était visiblement en feu, qui... Voilà, a été sanctionné. On ne comprend pas exactement ce qui s'est passé, mais ils sont tous levés d'un coup du banc juste après le pénalty. Visiblement, ils se sont plaints de quelque chose. Et François Le Texier qui a adressé un carton jaune à un membre du staff d'Hassan. Mais en tout cas, les Égyptiens, que ce soit sur le banc ou sur le terrain, ils sont dans leur match. Ils sont concentrés, ils sont à fond. Et pour l'instant, ça fonctionne. On rappelle, 23 minutes de jeu, 1-0 pour l'Égypte face à l'Argentine. Maintenant, quelle attitude va être adoptée par les Égyptiens? C'est la question. Là, il y a un pressing de Zico sur Romero. Les
Argentins. Et parle-nous de l'ambiance dans le stade, parce que le stade était acquis à la cause des Argentins. Est-ce que là c'est la super
climatisé là.
C'est redescendu d'un cran. Ça va peut-être remonter sur cette action avec Julian Alvarez. Enzo qui essaye de déborder sur le côté gauche. Il est un petit peu seul, il peut re-rentrer intérieur, le ballon profondeur vers McAllister. C'était très très bien senti et finalement ça a été dévié par Mohanad Lachine au milieu de terrain. Heureusement qu'il touche ce ballon, parce que je pense que McAllister, il était parti en profondeur et derrière il y a une petite faute qui va permettre aux Égyptiens de récupérer ce ballon. Mais effectivement, c'était le feu. Alors l'ambiance n'est pas égale à celle, par exemple, qu'on a eue à Miami, où là, on sentait qu'il y avait quasiment que des Argentins. Là, il y a énormément de supporters américains qui ont le maillot de l'Argentine. Et donc, forcément, ça se ressent un petit peu dans l'ambiance, qui reste très, très bonne et largement en faveur des Argentins. Mais c'est pas la Bombonera. Voilà, c'est pas la Bombonera. C'est pas, c'est pas la même ambiance que, qu'à Miami. Et les Égyptiens, eux, ils sont quelques milliers quand même. Et ils font la fête. C'est la pause fraîcheur ici à Atlanta, 1-0 pour l'Égypte face à l'Argentine.
18h25 sur RMC. L'Argentine est menée par l'Égypte en 8e de finale de Coupe du Monde. 1-0 pour les Égyptiens. Messi a loupé un pénalty. On est avec Manu Petit, avec Jérôme Rotten, en direct de la brasserie Flora dans le 9e arrondissement de Paris. La suite de ce match, dans un instant, grâce à Edgar Grolot qui est à Atlanta. On reparlera également de l'équipe de France. On marque une pause et on revient. Ne bougez pas, à tout de suite.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Le ballon maintenant pour Mickaël Merino, et le but de Mickaël Merino, et l'entrée en jeu décisive de Mickaël Merino, le joueur d'Arsenal vient libérer La Roja qui prend la direction des quarts de finale.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h30 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme. La deuxième demi-heure, elle commence en mode live Argentine-Égypte. Pour l'instant, la sensation, l'Égypte mène 1-0, mais c'est chaud sur le but égyptien. On est avec Manu Petit, avec Benoît Boutron et avec Edgar Grolot qui est sur place.
Ouais Edgar, on y retourne tout de suite.
Très chaud.
Vas-y.
C'était très très chaud avec une immense opportunité d'égaliser pour l'Argentine, la tête de McAllister à bout portant. Attention Mohamed Salah qui est lancé, Mohamed Salah, il n'a pas pu contrôler et ça permet à Romero de rattraper la boulette de son coéquipier et de mettre ce ballon en retrait de la tête vers Emiliano Martinez. Mais McAllister sur l'action précédente qui avait été trouvé quasiment à bout portant ou au point de pénalty entre les deux, et il a mis sa tête directement sur Choubir qui fait un sacré match, évidemment lui qui a déjà arrêter le pénalty de Lionel Messi. Et stat incroyable que publie Opta il y a quelques instants. Lionel Messi devient le premier joueur de l'histoire à rater deux pénaltys dans la même Coupe du Monde, hors séance de tir au but.
Oh, quel tocard.
C'est vraiment le meilleur joueur de l'histoire, on n'est pas sûr.
Oh, non, franchement,
mais c'est incroyable quand même que le meilleur joueur de l'histoire et le plus technique sûrement, son point faible, c'est tirer les pénaltys. C'est,
non, mais
c'est
je
comme
sais
si
pas
LeBron
si
James ne savait pas mettre un lancer franc, mais bon, alors c'est pas sa spécialité. Mais
ça c'est prouve comme encore une fois que les pénaltys, c'est de l'autre.
C'est pas sa spécialité
en fait.
Non,
ça prouve surtout une chose, et même si tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais je comprends pas les pénaltys, c'est un geste technique et ça se travaille aussi.
Ah oui, mais si
t'as beau,
nul.
T'as beau être non, mais ça se travaille. Je suis désolé. T'as une façon de les tirer, surtout quand t'es tireur numéro un. Je te parle pas de la séance de tir au but parce que il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu que. Mais pour les tirer dans le match, quand t'es tireur numéro un ou numéro deux, t'es obligé quand même, que tu t'appelles Léo Messi ou Zinedine Zidane ou un autre.
Jérôme Rotten.
Oui, parce que moi ça m'arrivait de les tirer où j'étais au moins dans les deux tireurs. Bah t'es obligé
il est plus
d'avoir.
Sur Jérôme. Il est plus à l'aise sur coup franc et on va suivre ce coup franc justement à une dizaine de mètres de la surface de réparation. Plein axe, c'est parti pour Lionel Messi, c'est enroulé hein, le poteau. Choubir qui a laissé ce ballon taper son poteau. Lui dit qu'il ne l'a pas touché et vu sa réaction, je me demande si. Ouais, non, ça a été corrigé. Ça a été corrigé justement parce que Choubir, il me semblait tellement sûr de lui que je pense qu'il avait raison et effectivement, les arbitres se sont ravisés. Ce sera bien un 6 mètres pour l'Égypte. Mais alors là, Lionel Messi qui a complètement contourné le mur en enroulant.
Coup franc est magnifique.
Bon, Choubir était dessus. Ouais, Choubir
était dessus. Les coups francs, vous croyez qu'il les travaille ou pas?
Ah, moi je pense que oui.
Ah, bah voilà. Et bah donc c'est pour ça qu'il est clinique, il a un tel pied et tout ça. Je trouve qu'il y a de la négligence de sa part. En effet, sur les pénaltys et les coups francs, il n'y a rien à dire. On va pas apprendre à Léo Messi de tirer un coup franc.
C'est mental aussi, non?
En plus, non mais, bon, je pense que la pression, Léo Messi, il en a connu d'autres. mais en effet, le fait de tirer le pénalty comme il a tiré et vu qu'il avait raté de ce côté-là, peut-être que psychologiquement, il y a un truc qui s'est mis en place.
Ou alors,
il
faudrait mettre un mur. Pour l'adversaire.
Ouais.
En fait, avec sa qualité technique, il faudrait qu'il vise la lucarne à chaque fois, et voilà quoi.
Ouais, c'est ça. Exactement.
Tiens. Ses qualités, tu vois.
31 minutes de jeu, 1-0 pour l'Égypte contre l'Argentine. 8e de finale en direct sur RMC dans Rotten sans flamme. Deux infos à vous annoncer. Déjà en tennis, Novak Djokovic vient d'entrer sur le court à Wimbledon. Il va affronter Félix Auger-Aliassime. C'est un quart de finale qu'on suivra avec Eric Salio. Et puis sachez que la FIFA, qu'adore Manu Petit, est vraiment taquine parce qu'on connaît l'arbitre de France-Maroc.
Non.
Et l'arbitre sera argentin. L'arbitre de France-Maroc, c'est monsieur Facundo Tello.
Il n'y a pas de paraguayen disponible ou quoi?
France-Maroc, c'est un arbitre français qui arbitre les Argentins et un Argentin va arbitrer la France contre le Maroc. C'est bon, c'est ça quand même.
C'est une blague.
C'est dingue.
Non, mais toi, ça te fait rire, mais moi, ça me fait pas rire.
Bah, c'est ça le problème, c'est que ça fait, moi, ça me fait plus rire du tout.
Mais oui, c'est ça.
À la FIFA.
Mais parce que, franchement, qu'est-ce que tu vas mettre?
Non, mais vous n'allez pas me remettre en question la probité de l'arbitre.
Non, bah, écoute, on ne la remet pas en question. Je dis juste que c'est surprenant. C'est surprenant après l'animosité qu'il peut y avoir entre.
Eux ont chouiné, hein, Edgar. Les Argentins ont chouiné quand ils ont vu que c'était le Texier. Hein.
Oui, non, mais surtout les supporters. Si on peut pas mettre des arbitres des pays qui ont une rivalité footballistique avec l'Argentine, on va pas s'en sortir.
Non,
parce qu'il y a 90% de la planète qui a un problème avec la sélection argentine.
C'est pas ce qu'on demande. C'est vraiment, Edgar, t'as raison, t'as entièrement raison, mais c'est pas ce qu'on demande. On dit juste que il y a des choses qui nous paraissent surprenantes. Ouais. Voilà, c'est tout.
Qui nous dépasse, mais qu'aujourd'hui, on n'est plus aveugle. En fait.
Donc, quand tu vois tout ce qui se passe depuis le début de cette Coupe du Monde, on n'a pas attendu cette Coupe du Monde pour s'en rendre compte, mais d'autant plus là, forcément, on est obligé de se questionner sur le fait, mais les Argentins, ils mettent un arbitre français, et nous, ils nous mettent un arbitre argentin.
Voilà. Alors, je pense que l'idée, polémique. Même si évidemment, il y a sûrement.
Moi, j'aurais mis un arbitre marocain, moi.
Mais quand tu regardes, par exemple là, Argentine-Égypte, donc un match entre une équipe sud-américaine et une équipe africaine, ils essayent de mettre un arbitre européen. Et là, le match France-Maroc, ils mettent un arbitre sud-américain pour essayer peut-être d'éloigner au maximum des deux pays. Mais évidemment, il y a peut-être d'autres options aussi qui existaient.
Donc, c'est pas l'Ouzbek qui cette année là dans ta chef.
Ouais, parce que là.
Non, mais par exemple, aussi. Le Mexique. Mexique-Angleterre, c'était un arbitre australien. Bon, bah l'arbitre australien, peut-être qu'il aurait pu faire l'un de ses matchs aussi, mais ou en tout cas le match d'équipe de France. Mais voilà, c'est peut-être aussi une partie de la réponse. Attention, la frappe très lointaine de Karim Hafez, et je retire mon attention parce que là, il n'y avait pas besoin d'avoir peur. Il a tiré de 35-40 mètres et il a envoyé ça directement en tribune. Mais pourquoi pas, 35e minute, toujours 1-0 pour l'Argentine, pour l'Égypte, pardon, face à l'Argentine.
C'est pas si loin, hein.
Et les Argentins, depuis 5-10 minutes, depuis l'occasion d'Alexis McAllister, ils n'arrivent pas à se rapprocher de cette surface de réparation égyptienne. Peut-être là, avec Enzo Fernandez, Julian Alvarez, qui est obligé de revenir derrière parce qu'ils sont tout de suite pris par 2-3 Égyptiens systématiquement, les joueurs argentins, et on est obligé de revenir derrière avec Romero, Paredes dans le rond central. Paredes qui touche énormément de ballons, mais qui pour l'instant n'arrive pas à créer des décalages. Et au moment où je dis ça, il arrive à trouver Tagliafico sur le côté gauche, qui remet vers Enzo Fernandez, vers McAllister pour Lionel Messi en une touche avec De Paul. Il remet 1-2-3 avec Lionel Messi toujours, et finalement le ballon qui est dégagé par Imam Achour en touche. Les Argentins qui vont rester extrêmement haut, et tous les joueurs de champ qui sont positionnés dans la surface égyptienne ou juste devant, en tout cas dans la moitié de terrain des Pharaons. La touche de Nahuel Molina qui est obligé de revenir derrière, le pressing de Mohamed Salah, et oui, pressing de Mohamed Salah, 34 ans, capitaine évidemment, qui a tout vu, tout vécu, mais qui fait les efforts pour essayer d'embêter la relance argentine. Lionel Messi, De Paul, Paredes lui aussi qui est bloqué. Ça n'avance pas. N'avance pas, Jérôme, côté argentin. Ouais.
Non, ça n'avance pas. À ce rythme-là, les Égyptiens, ils vont être capables de les contrer. Hein. Défensivement, à part Salah qui reste un petit peu plus devant, et ben, au niveau du rond central, les autres, ils sont totalement là pour fermer à l'intérieur.
Mais pas de rythme, c'est fou.
Il bloque sur Messi à l'intérieur. De toute façon, ça se ressent. Il laisse l'opportunité aux Argentins d'aller sur les côtés. Mais dans l'axe, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Donc, si les Argentins veulent trouver une solution, il faut aller beaucoup plus vite dans les redoublements de passes. Là, ça ronronne un peu trop, quoi.
Ouais, ils sont à 5 derrière, hein, les Égyptiens, avec Achour en fait qui sur les phases défensives vient se positionner en latéral gauche, on va dire, piston gauche. Et dès qu'ils ont le ballon, ils repassent à 4 évidemment. Mmh. Mais en phase défensive, ils ont vraiment une ligne de 5 assez claire, ce qui généralement veut dire, comme vous venez de le dire, que tu as envie de pousser aussi les adversaires à aller sur les côtés, surcharger l'axe du terrain. Et on voit que c'est ce qu'ils essayent de faire avec Lionel Messi qui est pris, qui est en surnombre généralement. Et évidemment, tu préfères quand même avoir des centres de Tagliafico et de Molina à défendre que des frappes Lionel Messi.
Exactement.
C'est très clair, même si, bon, c'est
notamment Molina. À partir de quel moment on commence à s'inquiéter pour les Argentins, Jérôme et Manu?
Après cette action peut-être avec Lionel Messi l'enroulé. Il n'est pas dans son assiette. Il n'est pas dans son assiette, Lionel Messi, le ballon qui s'envole dans les tribunes alors qu'il était vraiment dans sa position idéale, préférentiel Lionel Messi, sur son pied gauche, en train d'entrer vers l'intérieur, et il envoie le ballon 10 mètres au-dessus de la cage. Alors c'est rare qu'il rate autant ce genre de geste technique, qui vraiment dans cette position qu'il adore. Ah,
vivement le texto de Jérôme là, ça peut faire quelque chose, on ne reconnaît plus là, ça y est.
Ah, il a du mal dormir. Hein.
Non mais Manu, comment il peut faire une erreur technique pareille?
Ah bah même les très très grands, les plus grands, hein, il est capable d'en faire, donc, mais je suis persuadé qu'il va régler la mire bientôt. Hein.
Oui, parce qu'on sait que ça peut aller vite quand même en seconde période. Oui,
écoute, tu sais, je faisais référence au pénalty raté contre l'Autriche. Bon, il s'est bien rattrapé quand même, tu vois. Donc là, ça dure. Alors il s'était rattrapé un peu plus tôt dans le match. En effet, la première mi-temps pour l'instant de Léo Messi, elle est très très moyenne. Elle est même ratée, mais ça ne veut pas dire qu'il va rester sur ce tempo-là. Bon, et comme tu disais, Manu, l'efficacité de Messi, combien de matchs il a fait comme ça peut rater une partie du match et puis derrière.
Attention, Tagliafico qui est trouvé dans la surface de réparation, la remise. Oh, quel arrêt! Mais quel arrêt de Mustapha Choubir face à Julian Alvarez! La reprise de Julian Alvarez! Et qu'est-ce qu'il est allé rapidement au sol, Choubir! Quelle parade pour mettre ce ballon en corner! L'action argentine qui était magnifique, la transversale vers Tagliafico, la remise en une touche magnifique vers Julian Alvarez qui fait le geste juste et la parade du gardien d'Al-Ahly. Exceptionnel, Manu, sur cette action.
Franchement,
l'ouverture, elle est sublime. Pour Tagliafico dans la course comme ça, côté gauche.
Après, je te disais, il doit marquer Alvarez, mais franchement, il fait le geste juste.
Ah, la parade, elle est incroyable.
Ouais, il peut un peu plus croiser.
Manu, ça vient vite quand même.
Je pense qu'il peut un peu plus la croiser. Mais tu parles des
Julien Alvarez. Il peut mieux la mettre, mais c'est pas un geste raté de la
transfert. T'as raison.
Attendez, on parle pas d'un premier venu.
C'est un numéro 9 qui est demandé.
C'est un geste technique. C'est pas Marcus Thuram. S'il ferme un peu plus son pied, il met côté opposé, on n'en parle plus. Donc pour moi, le geste n'est pas bien assuré.
Même si Edgar te dirait qu'en Liga, Julian Alvarez, c'était pas
et puis sincèrement, la longue transversale avec la remise, elle est beaucoup plus dure que la reprise d'Alvarez devant le but.
Ah oui, ça c'est sûr.
La remise de Tagliafico,
c'est l'ouverture qui est belle, non? C'est l'ouverture comme ça à 40 mètres.
Ouais, mais le fait, comment il la dépose, comme un souvent coussin en fait. Vas-y, presque j'en ai marre, va marquer.
Là où tu as raison, c'est Tagliafico. Moi, il me surprend. On avait parlé de son mauvais geste d'entrée. Mais là, c'est lui qui obtient le pénalty, c'est lui qui donne cette offrande à Alvarez.
Sublime.
Pour l'instant, il est totalement. Ouais, duel, elle n'est pas facile.
Tu dois. La trajectoire, en plus, position
de le corner qui va être tiré par Lionel Messi, messieurs, tiré au premier poteau. La reprise de Julian Alvarez, qui finalement va filer en sortie de but de l'autre côté. Mais c'était très bien tiré une nouvelle fois de la part de Lionel Messi au premier poteau. Ça avait touché l'un de ses coéquipiers. On rappelle, ils ont marqué comme ça face au Cap Vert. Pourquoi pas aussi face à l'Egypte, compter sur les coups de pied arrêtés pour trouver une solution à deux reprises face au Cap Vert. D'abord avec Lisandro Martinez et puis ensuite avec Cristiano Romero, même si le but finalement avait été accordé, a été transformé en contre son camp pour Borges qui avait dévié la tête de Romero. Mais ça peut aussi être une arme, et là c'était très très bien tiré, messieurs, de la part de Lionel Messi.
Là quand même, on sent depuis la pause fraîcheur. Alors tout à l'heure on parlait du rythme qui était cassé. Je pense que c'est qu'on constate que c'est une autre équipe d'Argentine quand même. Ils ont eu trois grosses occasions depuis cette pause fraîcheur. Ils auraient dû marquer, et le gardien, il est pour l'instant incroyable, le gardien égyptien, mais l'Égypte propose plus rien là. Tu vois, il court après le ballon. Je pense que il va falloir qu'ils reprennent un petit peu le dessus. On disait quand le rythme allait redescendre, pour les Égyptiens, il fallait garder un certain
à
niveau.
Que leur gardien soit en état de grâce jusqu'à la fin du match. Mais
Là où Jérôme a raison, Manu, c'est qu'il pourra peut-être proposer autre chose si tu veux résister et exister contre cette Argentine. D'accord, parce que si tu prends un but, t'es foutu.
On a vu
un peu ce que la RDC avait fait contre l'Angleterre.
Exactement, c'est ça.
Le Japon, pareil.
Ouais, voilà, exactement.
La RDC, rappelle-toi, Manu, le gardien, il était en état de grâce.
Et dès qu'il y a eu le but de l'égalisation, c'était terminé.
Ouais, ou il est un peu fautif.
Ouais, d'ailleurs.
Voilà. Et puis derrière, fini.
Ouais.
Donc, mais bon, pour l'instant, ils tiennent. Hein. C'est la surprise.
Attention, le centre de Tagliafico. Julien Alvarez qui laisse filer. Ça termine dans les pieds de Lionel Messi. Lionel Messi avec Alvarez. Alvarez, la frappe, l'enroulée. Il les aime bien, celle-là. Mais cette fois, c'est pas cadré. Ça file à côté de la lucarne de Choubir. Une nouvelle fois, Tagliafico sur le côté gauche qui déborde, qui arrive à trouver un bon centre. Julien Alvarez qui avait laissé filer dans un premier temps et qui termine en cette position intéressante à l'entrée de la surface, même si c'était compliqué.
Et les Égyptiens, je trouve qu'ils sont souvent en difficulté sur leur côté droit. Ils ont du mal à gérer la profondeur, les permutations et justement le coulissage à certains moments donnés dans les zones. Et ça permet justement à Tagliafico, mais à d'autres joueurs, de pouvoir s'engouffer. Donc attention, parce que, et aussi dans la lecture sur les centres, souvent des centres en retrait qui les mettent en difficulté alors qu'ils sont en surnombre.
Ouais. Et c'est là où
Mohamed Salah. Oh, le geste de Mohamed Salah qui vient de dribbler deux joueurs. Et derrière, McAllister qui récupère, mais la petite déviation. Il s'est fait une aile de pigeon pour lui-même, là. Presque un sombrero. Mohamed Salah pour éliminer un joueur tout au but.
Contrôle.
Magnifique geste, là, de Mohamed Salah. Cette première touche de balle qui élimine tout de suite son vis-à-vis. Il en a éliminé un autre derrière, mais McAllister qui est revenu. Mohamed Salah qui peut retoucher ce ballon face à De Paul. Et là, c'est perdu. Les Égyptiens qui vont rester très haut, mais la très belle sortie de balle de Lisandro Martinez et des Argentins. Martinez qui remonte un petit peu la pelouse au niveau du rond central. De Paul maintenant. De Paul, on a passé la ligne médiale. Lionel Messi qui touche quand même plus de ballons que face au Cabert. Et là, il est passé face à Achour, mais pas face à la deuxième lame. Atia, il y a une petite faute derrière d'Atia et ça va permettre aux Argentins de garder la possession parce que Lionel Messi en avait fait un tout petit peu trop. Toujours. Cette qualité, c'est cette façon de toucher la balle juste avant l'intervention du défenseur qui provoque cette.
Il reste 2 minutes dans le temps réglementaire de la première période. 1-0 pour l'Égypte face à l'Argentine à Atlanta. On suit le match avec Edgar Groslo, Manu Petit, Jérôme Rotten. Nouveau détour par Wimbledon, Eric Salio. Le quart de finale entre Novak Djokovic et Ogier Aliassim vient de démarrer, hein, Eric.
Ouais, c'est parti depuis quelques minutes sur le center court ensoleillé. Il fait 30 degrés ici à Londres. Novak Djokovic et Félix Auger-Aliassime, c'est peut-être le début des travaux forcés pour Djoko, puisque il doit jouer Auger-Aliassime, ensuite peut-être Sinner, puisque ce serait Sinner en demi, et pourquoi pas Zverev en finale. Donc 1, 2, 3, hein, carrément.
Ah oui.
Bon, déjà, il faut battre Auger-Aliassime, c'est parti. Il y a un partout entre les deux joueurs. Et puis Osaka est en difficulté, elle a perdu le premier set contre Mourova, 7 jeux à 6, et il y a 4 partout dans le deuxième set, et balle de break à venir pour la Tchèque.
Merci Eric. Retour à Atlanta, Edgar, la fin de la première période entre Égyptiens et Argentins.
Et Mohamed Salah est vraiment en train d'entrer dans son match, là. Il a encore éliminé un joueur argentin avant de subir une faute, mais tu sens quand même que c'est toujours un joueur qui peut être dangereux et qui va notamment dans une équipe qui n'a pas beaucoup le ballon depuis 15-20 minutes de jeu maintenant, te permettre de gratter des fautes intéressantes, de garder un petit peu le ballon.
Ils auront besoin de lui comme ça, et c'est vrai que tu as raison. Là, ça fait sur les 3-4 derniers ballons qu'il a eu, il a permis à son équipe de souffler un peu, et ils auront besoin d'avoir un Salah dans cette forme-là. Alors, est-ce que il est capable de faire ça pendant 90 minutes, voire plus? Je suis pas certain. Qu'on l'a vu tout au long de l'année, Mo Salah, il peut avoir des fulgurances, mais
il a du mal à peser tout un match.
Ça me paraît compliqué. Puis surtout que là, c'est très très épuisant pour lui. Il est tout seul sur le front de l'attaque, donc
il fait les efforts. Mais,
il fait beaucoup d'efforts. Pour l'instant, ça tient. Mais je te dis, l'Égypte était pas loin de craquer, donc il va falloir que tous les mecs soient comme ça au taquet pendant 95-100 minutes. ça va pas être facile.
Et il sera peut-être secondé par Marmouche qui est remplaçant de ce match, hein, Edgar, on le rappelle.
Oui, exactement. Il y a aussi des options sur le banc égyptien. Le centre de Paul, il visait Julian Alvarez, ça a été dévié, ça va être repoussé dans un premier temps par la défense égyptienne. 5 minutes en plus à jouer dans cette première période. On est déjà entré dans le temps additionnel. Attention, le ballon qui était en direction de Lionel Messi au-dessus de cette défense égyptienne. La bonne intervention d'Afès de la tête pour mettre ce ballon dans les bras de Choubir. 5 minutes de temps additionnel, il y a déjà 1 minute 30 de ces 5 minutes qui ont été jouées et ça ferait évidemment beaucoup de bien aux Égyptiens d'arriver avec cet avantage d'un but au vestiaire. Justement, ils ont le ballon, les Pharaons. On va chercher pourquoi pas Zico en profondeur, mais Zico il est tombé, il a cherché la faute, ça n'a pas été signalé par François Le Texier. Effectivement, il n'y avait pas grand chose, ils ne sont pas compris les deux Égyptiens sur cette combinaison. Le long dégagement d'Emiliano Martinez directement sur la tête du buteur Ibrahim Yasser, l'Égyptien. Il y a eu la bascule de Julian Alvarez qui a fait faute et il est mal retombé là, le défenseur central égyptien, et François Le Texier qui demande tout de suite au corps médical égyptien d'entrer sur la pelouse parce que Julian Alvarez n'a pas du tout joué le duel et il s'est retourné.
Il est tombé direct
et forcément
sur le,
c'était,
sur le dos.
C'était dangereux pour Yasser, hein, genre.
Direct sur le dos, souffle coupé, ah, ça, ouais, là, c'est sûr.
Ouais. C'est impressionnant. C'est, comme j'espère que c'est pas grave.
Ouais, il est tombé à plat sur le dos là.
Ouf. Bam. Ah oui, oui.
Le coccyx. Ah ouais, voilà.
Et puis il y a respiration coupée, je
crois. C'est ça. Respiration coupée, il y a un peu de panique.
Il mettre le froid sur la poitrine.
Ouais, il n'y a pas que du froid qui doit mettre.
Comment tu juges, Edgar, d'ailleurs, l'arbitrage de François Le Texier depuis le début de ce huitième de finale?
Écoute, il n'y a pas eu. Je trouve pas qu'il y ait eu de grosses erreurs.
Il a sifflé un penalty, qui était logique.
Il a sifflé à certains moments où il y a eu des duels illicites. Non, rien à signaler. Pour l'instant, il tient son match, j'ai l'impression. Il a mis un carton à un membre du staff. Alors, on a découvert que c'était après. La FIFA a pris 20 minutes à comprendre à qui il avait donné le carton jaune. Il l'a donné à l'entraîneur des gardiens égyptiens. Bon, je ne suis pas sûr que ça aura un impact important sur le match. Mais voilà, il essaye. Pour l'instant, il tient son match. Il n'y a pas de tension entre les joueurs, même si là je trouve quand même que le geste de Julian Alvarez est dangereux. Il sait très bien que c'est dangereux pour son vis-à-vis de se retourner comme ça, de se plier alors que son vis-à-vis est dans les airs. Il sait très bien que ça va être dangereux et je pense qu'il faudrait éviter du côté de François Le Texier ce genre de geste, parce que c'est typiquement le genre de duel qui peut blesser un joueur. Heureusement, il s'est relevé, Ibrahim Yasser, il va pouvoir continuer ce match. Il reste 1 minute 30 dans le temps additionnel de cette première période et les Argentins sont toujours menés. Les Argentins qui ont la possession du ballon mais qui ne savent pas quoi faire de cette pelota de Paul au milieu de terrain. Paredes, Lionel Messi qui est obligé de revenir, ça c'est peut-être symptomatique, revenir quasiment entre les deux centraux là pour remonter ce ballon. Aussi une façon de se mettre en confiance, hein, de toucher les ballons plus bas. Lui qui a raté un pénalty, on le rappelle, raté aussi largement une frappe un petit peu plus tard dans ce match. Lionel Messi qui a aussi touché le poteau sur un coup franc, on a tendance à l'oublier. Julian Alvarez qui se retourne, il est à 10 mètres de la surface de réparation. Enzo Fernandez maintenant, on décale sur le côté gauche. Tagliafico en position de centre, il a hésité et ça a permis à Issem Hassan, le binational français de cette équipe égyptienne, de remonter et de mettre la pression sur lui. Julian Alvarez, Lionel Messi devant la surface de réparation, la bonne intervention égyptienne, il a réussi à conserver ce ballon. Messi en profondeur vers Tagliafico et la bonne intervention d'Ani qui derrière dévie sur Tagliafico. Et de toute façon, il y avait une position de hors-jeu de la part du Lyonnais. La bonne défense une nouvelle fois des Égyptiens et monsieur Le Texier qui demande à ajouter du temps à ces quelques minutes en plus parce que Yasser a passé quelques secondes au sol après ce duel avec Julian Alvarez.
Ouais. Manu, Jérôme, on se posait la question, est-ce qu'on va enfin avoir un match référence pour les Argentins? Ça en prend pas le chemin, hein, là. Non. Ils ont souffert contre le Cap-Vert, c'est le même cas contre l'Égypte. Hein.
Ouais, c'est loin d'être satisfaisant, à la fois sur le plan individuel mais également collectif. Donc on attend beaucoup mieux de cette équipe-là, en sachant également les joueurs qui la composent, cette équipe. Donc, on est toujours frustré de voir que le potentiel est rarement exploité, qu'ils sont toujours à même plan de jeu. C'est d'attendre que l'attaque, que les adversaires attaquent, et c'est de les contrer. Donc là, ils sont menés au score, c'est à eux justement de prendre le ballon et de mettre le pied dessus.
Ouais, après, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont se faire bouger à la mi-temps. Ça, c'est clair. Je pense que le sélectionneur, c'est un peu l'état d'esprit. Il ne doit pas être content de ce qu'il voit, même s'ils ont eu quand même 3-4 grosses occasions, avec ce pénalty en plus raté. mais c'est insuffisant. Manu le disait, c'est tu peux. Ils sont champions du monde en titre. Normalement, le favori d'un match doit montrer.
D'après toi, est-ce que tu penses qu'il y a un peu d'arrogance de la part des Argentins lorsqu'ils sont entrés dans ce match?
Surtout aucune maîtrise.
Je les ai trouvés extrêmement poussifs.
Ah ouais. Ouais, c'est ça, c'est plus
sans
ça,
idée. Donc en termes de préparation, tu penses que s'ils avaient rencontré la France aujourd'hui, ce serait pas de la même manière?
Non, je pense pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas un souci physique? Est-ce qu'ils ne sont pas cramés aussi de...
Je pense qu'en façon Caver, ils étaient cramés, hein, messieurs, je vous le confirme. Ouais, non, là, ils vont pouvoir respirer parce que c'est la mi-temps à Atlanta. Ouais, 1-0 pour l'Égypte face à l'Argentine. Le but d'Ibrahim Yasser, le défenseur égyptien, à la 15e minute de jeu.
Merci Edgar. Qu'est-ce qu'il y a, Manu? Je te sens.
Quand au Cadbert, ils étaient cramés, les gars. Mais arrête. Mais vous entendez ce que vous dites un peu là? Parce que avec tout le respect qu'on a pour le Cadbert, et franchement, ça a été rafraîchissant. C'est magnifique ce qu'ils ont fait.
Oui.
Mais on parle de l'Argentine, les gars.
Et alors?
On parle de leur niveau physique, Manu.
120 minutes.
De leur niveau physique.
Que tu joues le Cadbert ou que tu joues la France ou l'Allemagne.
Mais on parle de joueurs qui ont l'habitude depuis des années d'avoir un nombre de matchs impressionnants par saison. On ne peut pas comparer ça avec le Cadbert.
Et donc, tu n'as pas le droit d'être cramé après un match, même si c'est le Cadbert.
Tu peux même être cramé physiquement face au Cadbert. Je veux dire, tu as suffisamment de qualité mentale et technique et tactique pour faire la différence.
Moi, je pense je suis assez d'accord.
Moi, je pense qu'il y a trop d'équipes encore aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit qui ont, on regarde avec beaucoup de condescendance certaines équipes qui aujourd'hui sont en train de créer des surprises.
Pour toi, c'est de l'arrogance pour l'instant.
Pour moi, le début de match des Argentins, je trouve que c'est arrogant parce qu'ils n'ont pas fait le nécessaire pour rentrer dans le match.
Et Manu, tu sais, pour répondre à Edgar et à Benoît, et peut-être qu'on en parlera dans la deuxième mi-temps, mais quand vous me parlez du niveau physique en me disant ils sont cramés, là, comment un joueur peut être cramé au bout de 45 minutes de jeu? Moi, il faut m'expliquer. Si c'est pas un problème mental de préparation comme l'a dit Manu,
26 joueurs.
C'est pas un problème mental. C'est pas un problème physique. Un problème physique à la 70e, 75e, ok. Ça peut arriver.
Je pense que les Anglais, ils ont un problème physique contre les Mexicains lorsqu'ils étaient à 10 contre 11 pendant 40 minutes.
Ah non, mais je pense qu'ils ont souffert et qu'ils peuvent le payer peut-être pour assister.
Mais ils ont souffert. Quand tu souffres physiquement, t'amènes du cœur.
Exactement.
Voilà.
Et ça, ils le mettent pas. Là, on est d'accord. T'as raison. 1-0 pour l'Égypte contre l'Argentine à la mi-temps à Atlanta. C'est ce 8e de finale. Suspense pour la seconde période qu'on va vivre en intégralité dans Rotten sans flamme avec Manu Petit, avec Jérôme Rotten, avec Edgar Groslot. Et dans un instant, on reparle de l'équipe de France. On ira à Boston retrouver Florent Germain. Tout de suite sur RMC.
RMC, Rotten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Dembélé dans la surface de réparation. Il faut provoquer, il faut essayer de frapper. Dembélé encore une fois, la frappe de Dembélé. Et le but.
Le mec, il est en feu.
Ce soir, le triplé d'Ousmane Dembélé, c'est le match du Ballon d'Or. Il est énorme, il est gigantesque.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
Il est gigantesque, il est énorme et c'est énorme dans Rotten sans flamme ce qui se passe depuis le début de la Coupe du Monde. Et encore ce soir, match en direct, la mi-temps pour l'instant, sensation. L'Argentine perd 1-0 contre l'Égypte. Alors celle-là, on l'a pas vu arriver, mais bon, il reste quand même un peu plus de 45 minutes pour les Argentins pour se refaire. On est avec Manu Petit, on est avec Benoît Boutron, avec Edgar Groslot qui est sur place pour nous commenter ce match. Et puis on va faire des petits débats équipe de France.
On rappelle l'événement, tu l'as dit Jérôme, donc 1-0 pour l'Égypte. Messi a loupé un pénalty, donc c'est son 4e échec en Coupe du Monde. C'est un record pour un joueur dans l'histoire des Coupes du Monde, donc triste record pour Léo Messi qui avait déjà raté contre l'Autriche en phase de poule. La seconde période en intégralité dans Rotten sans flamme, et puis on va reparler de l'équipe de France dans un instant avec Florent Germain qui nous attend. On parlera notamment de la concurrence entre Doué et Barcola pour démarrer contre le Maroc dans deux jours. L'autre direct, c'est Wimbledon avec Eric Salio et ce quart de finale entre Roger Aliassim et Djokovic. Eric.
Oui, pour l'instant, on est vraiment au début. Hein, les deux joueurs s'observent. Il y a 3-2 pour Novak Djokovic face à Félix Auger-Aliassime qui est au service. Donc, il n'y a pas de break. Mais la sensation, j'ai envie de dire, c'est l'élimination de Naomi Osaka qui avait endossé peut-être le costume de favorite après sa victoire face à Arina Zabalenka. Mais la japonaise a pris la porte. Défaite en 2-7 face à Karolina Mukova. 7-6, 6-4. Mourova, qui jouera jeudi contre Coco Gauff, la demi-finale numéro 1.
Merci Eric, on suivra ce match donc entre Roger Aliassime et Djokovic. Boston, Florent Germain est là, il nous attend. Salut Flo.
Salut Benoît, salut à tous.
Flo. Bon Flo, tu es au plus près des Bleus, il y aura un entraînement ce soir donc de l'équipe de France. On est à deux jours de ce quart de finale contre le Maroc, 21h sur RMC jeudi soir. Déjà des nouvelles du groupe, on en avait un petit peu avec Jean-Louis Tour. Est-ce que tu as des nouvelles un peu plus fraîches concernant Tchouaméni et les autres joueurs un peu touchés ou pas?
Bah écoute, Aurélien Tchouaméni, c'est vrai qu'il y a un point d'interrogation pour jeudi, mais plus les jours passent, plus on comprend que ce sera difficile de le voir titulaire contre le Maroc et que la tendance est plus à ce qu'il récupère, qu'il soit en forme, et on croise les doigts pour une éventuelle demi-finale. Donc c'est plutôt le calcul et la volonté du staff médical qui a priori ne devrait pas prendre de risques. Hein. Lors des derniers entraînements, il n'était pas sur la pelouse. On aura évidemment un œil, même si c'est à 8 lots. Un œil ou des oreilles pour savoir si il peut éventuellement être avec ses coéquipiers, mais je pense qu'on va pas prendre de risque côté Aurélien Tchouaméni et côté staff médical, parce que ça reste quand même une zone compliquée là, à la frontière de l'adducteur et de la cuisse, et donc ce serait peut-être un choix démesuré de forcer, et c'est pas en général comme ça que fonctionne Didier Deschamps. Donc pour Tchouaméni, a priori la prudence va s'imposer. Marcus Thuram va mieux par rapport à sa blessure au mollet. Il a retrouvé ses coéquipiers. Alors ça ne veut pas dire qu'il sera forcément à 100%, mais au moins il peut retrouver le groupe. C'était la tendance des dernières heures concernant ces deux bobos qui ont animé un petit peu l'équipe de France ces derniers temps.
Flo, tu parles de tendance. On voulait commencer à se projeter sur la compo probable des Bleus pour le match donc face au Maroc, avec toujours cette question: est-ce que c'est Barcola ou est-ce que c'est Doué qui va démarrer? Lorsqu'il y en a un qui démarre, c'est l'autre qui est décisif souvent.
Moi, et là, c'est ce qui s'est passé. Je m'étais trompé sur le match précédent en privilégiant Barcola à Doué. Mais en fait, non, Barcola, un prototype qui aime par-dessus tout la profondeur laissée derrière les défenseurs. On n'en a pas eu contre le Paraguay. Et je ne vais pas dire que c'était évident de voir rentrer Doué et lui qui est dans les petits espaces excellent justement sur ses appuis, également dans ses dribbles. Voilà, donc
et là contre le Maroc, tu voudrais qui toi, Manu?
Bah, je pense pas que le Maroc va venir fermer le jeu. Ils ont autre chose à proposer. Je pense aussi dans la rivalité entre la France et le Maroc sur le terrain. On l'a vu à maintes reprises, c'est quand même, on connaît quasiment tous les joueurs du Maroc. Certains jouent même en club.
Ça sera un contre un contre Hakimi. Hein.
Ouais, voilà. Donc ils se connaissent parfaitement. Donc Hakimi qui monte très souvent également. Donc il va falloir quand même gérer l'espace derrière lorsqu'il sera tactiquement très loin de sa position. Donc alors, moi je commencerai avec Barcola.
Est-ce qu'on a une tendance, Flo, avant d'entendre Jérôme?
Pour le moment, non. Je pense honnêtement qu'on en aura une en toute fin de journée, dans la soirée, puisqu'il y a un entraînement à huit lots, et c'est en général à deux jours du match que Didier Deschamps commence à donner des indices à ses joueurs. Donc là, à l'heure où on parle, c'est du 50-50. Faut rappeler en plus que ça reste quasiment le dernier poste pour lequel il y a un doute, parce que Digne est passé devant Théo Hernandez. Bon, il y a le pépin de Tchouaméni qui fait que Manu Koné a pu s'engouffrer au milieu de terrain, même si on surveillera les choix vu qu'il a eu un carton jaune, mais a priori, on a compris. Et concernant Doué et Barcola, là, on est vraiment sur le poste où c'est du 50-50, parce que on est sur une concurrence qui dépend effectivement un peu du match précédent, évidemment aussi de l'adversaire, s'il y aura des espaces ou pas, parce que les trois autres du Quatuor, Mbappé, Olysee, Dembélé, ce sont clairement des indéboulonnables. Ce qui est sûr, c'est que Désiré Doué, il a marqué des points quand même face au Paraguay, parce qu'il fait une très bonne entrée, Manu l'a rappelé, il provoque ce penalty. Ce qui est certain aussi, c'est que c'est chacun son style. Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps, on a reparlé hier. Voilà, un peu plus d'espace. C'est plutôt pour Barcola. Faire la différence avec des enchaînements dans un jeu et une défense fermée, ça c'est plus pour Désiré Doué. Même si Désiré Doué a dit que c'était un petit peu réducteur de les qualifier comme cela. Je pense que c'est un sous-entendu pour dire que s'il y a des espaces, lui sait aussi les prendre et est capable, pourquoi pas, de les gérer. Et d'ailleurs, face à une équipe du Maroc, parce que vous parlez d'Hakimi, mais à droite c'est Hakimi souvent et Brahim Diaz. C'est-à-dire qu'on a un côté droit marocain qui parfois prend des risques quand même, qui est offensif, et donc ça entrera forcément dans la réflexion de Didier Deschamps. Mais je vous le dis, ça va se décider aujourd'hui, et donc on aura des infos dans la soirée ou dans la nuit.
Alors, teasing sur RMC, l'avis de Jérôme Roten dans un instant. 19h05, on revient, Roten sans flamme spécial Argentine-Égypte. Les Égyptiens mènent 1-0 à la mi-temps. On suivra la seconde période en direct d'Atlanta avec Edgar Grelot. Un grand merci à Florent Germain d'être venu. Merci Flo.
Merci Flo.
Jérôme, tu gardes ton avis.
Ouais, parce qu'il va être bien tranché. Hein.
Dans un instant, ça j'aime. Et la seconde période entre l'Argentine et l'Égypte.
Les choses, j'ai du mal à entendre.
RMC jusqu'à 20h, Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Vous avez aimé la première partie? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Roten sans flamme.